Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Depuis samedi, nous connaissons donc la formation du nouveau gouvernement ivoirien, le troisième depuis le début de la crise en 2002. Et quand on regarde attentivement la composition de ce cabinet, eh bien on constate que l'équilibre entre les différentes parties est respecté. Le FPI, le parti présidentiel, compte 11 portefeuilles. Les forces nouvelles, donc l'ex-rébellion, obtient 7 postes. Les deux parties de l'opposition, le PDCI et le RDR, ont respectivement 5 ministères. Reste à savoir évidemment, et c'est tout le débat de ce matin, si le nouveau Premier ministre réussira là où le gouvernement précédent a échoué. D'autant que vous le savez, le nouveau schéma politique était encore inimaginable il y a quelques mois. Je vous rappelle que c'est Guillaume Soro, le chef de l'ex-rébellion, qui est à la primature. Il va donc devoir cohabiter avec le président Laurent Gbagbo, son ennemi d'hier. Alors comment envisagez-vous cette cohabitation? Que vous inspire ce tandem Gbagbo-Soro? Nous allons en débattre ensemble jusqu'à 11h heure de Paris, 9h en temps universel. Vous nous rejoignez évidemment au 01 53 92 64 40, 33 1 53 92 64 40 si vous êtes à l'étranger. Et pour lancer le débat, nous accueillons Aristide. Bonjour Aristide.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes à Abidjan, Côte d'Ivoire, et vous êtes vous plutôt optimiste. Hein. Vous croyez et vous êtes convaincu que ce tandem va réussir à obtenir la paix définitivement?
Oui, oui, je le crois. Hein. Je pense que depuis la signature de cet accord, il y a un environnement politique qui est apaisé. Mmh. Et on le sait aussi, les populations sont fatiguées. Monsieur Gbagbo lui-même, il est fatigué. Monsieur Odium, qui a géré pendant 5 ans la partie nord du pays, aussi est fatigué. Et donc, cet accord qui a été initié directement et motivé par le président Gbagbo, oui, ne pouvait qu'être une belle solution.
Mais ça ne suffit pas de dire la population est fatiguée, Gbagbo et Soro sont aussi fatigués, pour que les deux hommes se fassent enfin confiance, puisqu'il y a encore quelques mois, Guillaume Soro affirmait que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'était Laurent Gbagbo.
Oui, tout à fait. D'abord, dans un premier temps, je pense même que le président Gbagbo lui-même, ce qu'il cherchait, c'était que les Africains puissent gérer eux-mêmes leur crise. Donc, ça fait que c'est une solution africaine qu'il privilégiait. Et donc, c'est ce qu'il a obtenu. Ensuite, M. Soro, lui, dans tous les cas, lui, il cherchait, il voulait le pouvoir. Bon, mais je pense qu'il a eu la moitié de ce pouvoir-là. Mmh. Et donc, en tant que tel, la situation est favorable pour les deux. Mmh. Ensuite, je pense que dans l'accord, il y a que la constitution est mise en exergue. Et donc, c'est ce que M. Gbagbo aussi cherchait. Je pense que cet environnement politique peut nous permettre d'aller à la paix.
Donc, vous pensez que Laurent Gbagbo a été réhabilité et Guillaume Soro a obtenu un peu ce qu'il a toujours souhaité, c'est-à-dire une partie du pouvoir. Vous restez en ligne, Aristide. Je ne sais pas si Michel, qui est également à Abidjan, partage votre approche. Michel, bonjour.
Bonjour, Juan. Je vous remercie.
Je vous en prie.
Je pense que c'est dans le même sens que je vais aborder qu'Aristide.
Mm-hmm.
Il faut être optimiste. Je pense qu'on peut aller à la paix. Et parce que la volonté y est du côté du parti présidentiel qui voulait être renversé coûte que coûte par un coup d'état militaire qui a échoué il y a 5 ans. Ils ont formé un kiste à Boaké, la résistance a été faite, mais les populations effectivement sont fatiguées, et toute la population est fatiguée, que ce soit au nord qu'au sud. Et donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on n'aille pas à la paix.
Oui, mais enfin, ces dernières années, Michel, et vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, vous êtes à Abidjan, sur place, les deux hommes se sont fait des coups tordus. Pourquoi ça changerait aujourd'hui?
Ça changeait parce que y a la volonté, des populations à aller à la paix. Il y a la volonté de Laurent Gbagbo à aller à la paix, la volonté de Soro à aller à la paix. Parce qu'après tout, Soro, il a réfléchi. Il a vu que l'opposition ivoirienne, pour qui il faisait plus ou moins cette lutte, s'est montrée faible vis-à-vis du parti présidentiel, qui est le FPI de Laurent Gbagbo, qui a montré par A plus B que politiquement, il était capable d'assurer un certain nombre de choses. Et donc, les populations en ont marre, il faut aller à la paix. Ils ont trouvé une situation favorable par les accords de Ouagadougou.
Mais donc, il n'y aurait pas, Michel, à vous entendre, il n'y aurait pas d'autre alternative à la désignation de Guillaume Soro au poste de Premier ministre. C'était lui ou rien?
Moi, je pense que pour aller à la paix, Soro, Guillaume doit comprendre une chose. Il ne faut pas qu'il s'oppose, il faut qu'il fasse un tandem pour aller à la paix, pour que le pays retrouve une paix définitive.
Et en même temps, on parlait aussi de tandem entre Laurent Gbagbo et Charles Colombani, l'ancien Premier ministre.
Oui, mais c'est un un peu différent parce que après tout, Charles Kouna Bani, il était un peu cautionné par la communauté internationale, ce qui irritait Gbagbo de temps en temps. Bon, aujourd'hui, c'est Gbagbo qui a signé le décret. Il a pris la décision de s'entendre avec ce Serro Guillaume qui a après tout une armée. Et c'est lui qui était véritablement opposé à Laurent Gbagbo.
Ouais.
Il a renversé son pouvoir, il n'a pas pu. Bon, je pense qu'il a réfléchi, il a trouvé que bon, il faut aller à la paix. Pour aller à la paix, il faut composer avec Laurent Gbagbo.
Ouais.
C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Aristide, Michel, reste en ligne. On comprend votre position, évidemment. Aristide, vous êtes toujours avec nous à Abidjan. Le fait, effectivement, que Guillaume Soro n'ait pas été choisi par la communauté internationale, mais que ce soit véritablement un choix du président de la République, vous pensez que ça change véritablement la donne?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que derrière, c'est un deal secret qu'il y a. Qui a été passé entre les deux. Et donc, je pense qu'avec le temps, nous arriverons à découvrir ce deal-là. Mais aujourd'hui, il faut le dire, le président Gbagbo, il a l'avantage du terrain politique. Si des élections étaient organisées dans un mois,
ouais.
dans cinq mois, dans dix mois, il passerait au premier tour.
Alors pourquoi...
Et donc, par rapport à ça, oui.
Mais Aristide, pourquoi parlez-vous de deal, donc d'accord secret passé entre les deux hommes? Et à quoi pensez-vous alors?
Ça ressemble un peu au deal... à la façon malienne entre le président Manitou Touré et Alpha Conaré, à savoir que bon, mais après les 5 ans de mandat du président Gbagbo, le premier ministre Serro Guillaume aurait les 40 ans et donc il pourrait succéder en tant que dauphin, un dauphin virtuel, parce que le dauphin naturel ce serait pas Serro Guillaume.
Et que Guillaume Soro pour l'instant n'a pas l'âge effectivement de pouvoir briguer la magistrature suprême. Michel, vous croyez-vous à un éventuel accord secret entre les deux hommes?
C'est probable et c'est fort possible, parce qu'après tout, ils ont vu que l'opposition ivoirienne, Serro Guillaume en particulier, a vu que l'opposition ivoirienne s'est fait museler, s'est fait avoir politiquement par la stratégie et les stratagèmes de Laurent Gbagbo, qui a montré que politiquement, il était plus fort. Alors, je pense qu'il voyait que le pays ne retrouvait pas la paix. Il fallait effectivement faire un deal, comme il a dit à Aristide,
bon.
pour qu'on puisse aller à la paix.
Bon, on va voir ce qu'on pense.
Je souhaite vivement, pour terminer, M. Rouen,
que
Toro puisse tenir le coup, pour ne pas qu'il reste dans les histoires de conflit entre lui et Laurent Gbagbo, pour que le pays puisse retrouver une paix définitive. On en a besoin.
Bien, on retourne au standard. Vous êtes nombreux. Je voudrais qu'on accélère un tout petit peu le rythme de l'émission. Merci Michel, merci Aristide d'avoir appelé. 01 53 92 64 40. Pébi, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Nous vous écoutons. Vous partagez l'optimisme de Michel ou pas?
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec Michel. Parce que quand Michel dit que Soro n'a pas été nommé par la communauté internationale, j'ai dit non.
Ah bah c'est vrai. Attendez, vous pouvez... sur ce point, vous ne pouvez pas contredire Michel. C'est le président Laurent Gbagbo qui a personnellement désigné Guillaume Soro. Vous ne pouvez pas dire que c'est la communauté internationale qui l'a nommé au poste de Premier ministre.
Non. Comment il s'appelle? Michel a dit tout à l'heure que Soro n'a pas été nommé par la communauté internationale, alors que Charles Kouna Bani, si. Ça veut dire que si Soro n'a pas été nommé par la communauté internationale, ça veut dire qu'il va réussir sa mission. J'ai dit non, mais Michel se trompe dans les calculs, dans son analyse, il se trompe. Bani n'est pas candidat aux élections. Et c'est pas Bani qui est l'autre. Disons, Bani n'est pas acteur de cette crise. Bani est toute une personne neutre que la communauté internationale a désignée. Donc Bani ne pouvait que se battre pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer les Ivoiriens à la paix. Pour que tous ces politiciens puissent se présenter aux élections.
Oui.
Donc je crois que Bani était mieux indiqué. Mais si Bani aujourd'hui, on l'a enlevé, mais c'est très simple. C'est parce que Bani, il avait la défense. Bani avait la sécurité, Bani avait l'économie, et ça n'arrangeait pas le FPI. Parce qu'ils ne peuvent pas aller aux élections s'ils n'ont pas ces postes. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On sacrifie Bani, on enlève, on récupère après tous ces postes-là, c'est ce qui a été fait. La défense, région FPI, la sécurité, l'intérieur, l'économie, tout région FPI. Mais on les met, on va aux élections et gagne les élections. Mais voilà, donc Bani a été sacrifié tout simplement pour pouvoir récupérer tous ces postes et aller aux élections.
Aller aux élections, attendez, Tébi, aller aux élections pour les remporter évidemment du côté du camp présidentiel. Est-ce qu'il y a eu, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'est Michel ou Aristide, un accord entre les deux hommes, c'est-à-dire Guillaume Soro laisse gagner Laurent Gbagbo et dans 5 ans, effectivement, Guillaume Soro pourra se présenter et à ce moment-là remporter la présidentielle. Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement eu un marchandage entre les deux, un deal?
Non, Juan, c'est pas possible. Soro, non seulement il est encore très jeune, et Soro ne peut pas aujourd'hui se présenter parce que Soro disons au sud, il ne fait pas bonne presse. Il ne fait pas bonne presse du tout, donc ce Soro doit attendre s'il doit se présenter peut-être dans 5 ans.
Mais dans 5 ans, c'est bien ça que je dis, dans 5 ans, pas maintenant, de toutes les façons la Constitution ne lui autorise pas. Tébi, vous êtes sceptique, vous êtes même inquiet, vous restez en ligne puisque Mathieu nous rejoint. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Juan.
Nous vous écoutons, allez-y.
Bon, moi je pense qu'ils ont des chances de réussir là où les autres ont échoué, parce que d'abord c'est les deux acteurs principaux, premièrement, et deuxièmement... moi, je crois que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que après le coup d'État manqué, Soro voulait avoir un poste, disons partager le pouvoir avec Gbagbo, et c'est ce qu'il vient de réussir. J'ai écouté tout à l'heure l'autre l'intervenant là.
Je ne sais pas lequel, il y en a eu plusieurs hein, depuis le début de l'émission.
Il parle de Charles Konan Banny.
Oui.
Par exemple, pour revenir sur le cas de Banny, je pense pour ma part que Banny a fait du bon travail, mais en même temps, il n'a peut-être pas écouté certains conseils qui dès le départ. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, à mon avis, va nous permettre d'avancer dans la mesure où, d'un côté, le président Gbagbo, à l'époque, voulait forcément gagner par la guerre. Moi, je crois que c'était ça. Donc, il a gagné du temps pour pouvoir faire la guerre. Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas gagner par la guerre. De l'autre côté, Soro Guillaume voulait forcément prendre le pouvoir par la force. Il s'est aperçu qu'il ne peut pas prendre le pouvoir par la force.
Oui.
Donc les deux se sont neutralisés.
Se sont neutralisés, mais est-ce qu'ils se font confiance au point de cohabiter et de parvenir ensemble à la paix ?
Non, mais le problème n'est même plus une question de confiance.
Ah bon ?
C'est une question de qui va doubler l'autre pour pouvoir aller à la paix. Parce qu'en définitive, ce que Soro a pu obtenir, et je crois que c'est ce qu'il veut obtenir pour sauver sa tête, c'est seulement les cartes d'identité pour, dit-on, les ressortissants du Nord. Ce qui est un faux débat, à mon avis, parce que moi qui vous parle, je suis du centre et je n'ai pas de cartes d'identité. Donc ce n'est plus un problème de Nord ou de Sud, c'est un problème de la majorité des Ivoiriens. Le Premier ministre sortant disait d'ailleurs que lui aussi n'avait pas de carte d'identité. Donc aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est obtenir cette carte d'identité. Une fois qu'il a obtenu ça, pour lui, il aura obtenu ce pourquoi il s'est battu pendant 4 ans. Et je dois rappeler qu'aujourd'hui, on parle de dialogue direct qui a abouti à tout ce qu'on voit, mais c'est parce que le peuple ivoirien, je m'excuse de le dire, mais en grande majorité, est amnésique, parce que c'est depuis le 24 septembre 1999 que quelqu'un a proposé ce dialogue direct-là, oui, qu'on a refusé de le faire.
Effectivement. En tout cas,
voilà, on a attendu que 5 ans après qu'il y ait tant de morts et de blessés, pour maintenant se rappeler qu'il faut faire le dialogue direct et tout le monde crie, oh là, c'est la trouvaille.
Pourquoi on vous coupe ? Voilà. Vous restez en ligne, Mathieu, 01 53 92 64 40. Soumana, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Soumana. Vous êtes également en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Je voulais dire tout simplement que ce tandem va réussir. Parce que tout simplement, parce qu'il y en a qui l'ont dit déjà, hein, tout le monde est fatigué, mais il faut le savoir. Le président Gbagbo l'a dit, le temps est l'autre nom de Dieu. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Le régime du président Gbagbo a été attaqué en 2002. En 2003, déjà la France a invité des acteurs extérieurs, n'est-ce pas, au débat, au conflit, à l'INAS Marcoussi. Quand on sait que déjà en 2002 même, quelques semaines après l'attaque, il y a eu Lomé.
Bon, qu'est-ce que vous voulez démontrer par là, Soumana ? Excusez-moi, Soumana, on ne va pas refaire l'histoire et revenir sur les 5 années de conflit. Qu'est-ce qui vous semble important à soulever alors ?
C'est juste que l'État de Côte d'Ivoire était représenté à Lomé. Vous voyez ? Alors qu'Alinas Marcoussi, c'était carrément les partis politiques.
Et donc ?
Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher. Et aujourd'hui, le président Gbagbo l'a dit, et le temps est vraiment le nom de Dieu. Aujourd'hui, la situation est favorable. La situation est favorable. Souvenez-vous, Evan, que sur votre antenne, le 6 novembre, le samedi 6 novembre 2004, votre consoeur, Ghislaine Dupont, l'a dit, hein, et je répète, que la rébellion, là, le Burkina ne va pas regarder la rébellion s'effondrer et balayer. Vous voyez, c'était des propos. Et tout le monde pensait qu'un camp pouvait gagner sur l'autre.
J'ai du mal à tout suivre. J'ai du mal honnêtement à tout suivre, à tout comprendre ce que vous voulez dire. Mais enfin, vous restez en ligne, Soumana, si vous souhaitez revenir dans le débat. Majid nous a envoyé un très long courrier électronique. Je crois qu'il est en ligne avec nous. Il est à Tanger. Bonjour, Majid.
Oui, bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, je commence par où alors?
Commencez-vous, commencez par où? Vous commencez par ce que vous voulez. On parle du tandem Soro. C'est vrai que vous avez envoyé un long courrier et vous avez abordé plein de points. Vous abordez celui que vous voulez. En tout cas, on parle de la réconciliation, du processus de paix, du nouveau gouvernement et évidemment de ce tandem Gbagbo-Soro.
Tout à fait. Pour moi, c'est là où on devrait commencer. L'accord de Linas Marcoussi devrait adopter ce schéma politique. C'est-à-dire donner la place qui revient aux forces nouvelles et leur leader Guillaume Soro dans le gouvernement.
C'est-à-dire qu'il aurait fallu, dès le départ, puisque vous faites référence à Linas Marcoussi, dès le départ, il aurait fallu que ce chef rebelle, Guillaume Soro, soit désigné Premier ministre.
Oui, pourquoi pas, ou un cadre du mouvement, et non associer des leaders, parce que ce n'est pas une simple crise politique.
Mais qu'aurait-on dit, Majid, qu'aurait-on dit à l'époque, il suffirait donc de prendre les armes pour accéder au pouvoir et pour être Premier ministre?
Oui, mais c'est un vrai problème, vous n'allez qu'à voir dans d'autres pays, au Soudan, qu'est-ce qu'on a fait avec le SPLA. Il a fallu que le gouvernement de Khartoum associe le mouvement de John Garang et confie la primature, la vice-présidence à John Garang. C'est-à-dire que les deux principales forces politiques se mettent ensemble et partagent le pouvoir et parlent d'une seule voix. C'est là le problème. La prise de décision, en ce moment, ils ont leur mot à dire là-dedans. Et non confier un simple ou bien quelques strapontins de ministère au mouvement dans le gouvernement et donner le grand rôle à d'autres partis politiques qui n'avaient rien à voir dans le problème. C'est là, ça, il fallait commencer par là.
Et à partir de maintenant, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo vont parler d'une seule voix?
Pas forcément, mais de toutes les façons, il a les commandes du gouvernement, cela veut dire qu'il a une large marge de manœuvre, ce qu'il n'avait pas avant.
Ouais.
Cela veut dire qu'il peut faire passer ses prix, il peut faire entendre sa voix et jouer dans la balance et pour régler les questions qu'il fasse.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas dans les précédents gouvernements.
Mamadou, en Allemagne, vous pensez que Guillaume Soro va s'imposer ou parviendra à s'imposer?
Je ne crois pas dans la mesure où je ne vois pas qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse s'imposer. C'est ça.
Donc
c'est
ça
beaucoup difficile. Je pense que c'est plus compliqué que tous ceux qui sont en train d'être optimistes.
Mamadou, je ne vous cache pas que la majorité des auditeurs que nous avons au standard sont optimistes et sont véritablement convaincus que ça va marcher.
Oui, mais qu'ils me disent maintenant qu'est-ce qui a changé pour que ça puisse aller, parce que je ne vois pas tout ce que Guillaume Soro a demandé pour les précédents premiers ministres. Je parle de Sédi Diarra, je parle de Charles Kounabani,
oui.
Pour des signatures d'ordonnance, des pouvoirs élargis, des trucs comme ça. Je ne vois pas qu'est-ce que lui-même il a eu de tout ça.
Majid, à Tanger, qu'est-ce qui a changé effectivement pour que tout d'un coup ça marche?
Oui, mais vous voyez, par exemple, dans l'actuelle configuration du gouvernement, les FN ont la primature, la justice, la solidarité nationale, l'enseignement supérieur, alors que le camp présidentiel a le plan, l'intérieur, la défense, la fonction publique.
Oui.
En fait, la configuration même du gouvernement n'est pas le problème. On voit maintenant que Soro n'est pas imposé par la communauté internationale.
Et ça change tout. Pour vous, c'est vraiment...
Oui, c'est la clé du problème. Gbagbo ne se voyait pas dans les précédents accords. Il pense que c'est la France qui impose le premier. C'est la communauté internationale. Cette fois-ci, c'est l'initiative de Gbagbo.
Mamadou,
en
Allemagne...
C'est lui qui a nommé Soro. Mamadou, donc, ça devrait marcher en principe.
Mamadou, en Allemagne, pour conclure, vous êtes convaincu ou pas par les explications de Majid?
J'attends 8 mois pour qu'on reparle de ce problème, mais je ne suis pas du tout convaincu. Et je pense que, sans le souhaiter, je pense que j'aurai raison.
Bah écoutez, on verra ça. Rendez-vous dans 8 mois. Mais enfin, d'ici là, nous aurons l'occasion, c'est promis, de relancer le débat sur le processus de paix en Côte d'Ivoire. Merci à tous de votre fidélité. Demain, je vous rappelle qu'RFI vous proposera une journée spéciale pour mieux comprendre la France qui votera dans moins de 2 semaines avec des invités, des reportages, évidemment. Et ce sera l'occasion pour vous de nous dire quel regard vous portez justement sur la France aujourd'hui, sur son modèle social, sa tradition républicaine, son système économique. Si vous souhaitez participer à cette émission, vous vous inscrivez dès maintenant 01 53 92 64 40.